décryptualité. Le podcast qui décrypte l'actualité des libertés numériques. Semaine 40, salut Manu.
Salut Mag.
Salut Théo.
Salut Luc.
Bon, eh bien, ce soir, on est nombreux. Donc, Théo, tu es de passage. Donc, sois le bienvenu.
Merci, bonjour.
Tu as fait plein de choses. Tu es surprise dans l'informatique. Et tu étais notamment actif à l'April. Et Magali, qu'on n'a pas eu depuis un petit moment aussi. Donc,
vous me manquiez.
Voilà. Donc, qu'a-t-on au sommaire ?
Petite revue de presse, quatre articles principaux.
Oui, mais des beaux articles. Alors, lagazette.fr, Open Data, le mouvement qui s'enclenche est inéluctable, par Romain Mazon.
Donc, l'open data, c'est le fait que les administrations, notamment, ouvrent les données qu'elles ont en interne pour les citoyens, et la France et les entreprises notamment, et en ressortir plein de services et d'outils qui peuvent être utiles par-dessus. Donc, c'est un mouvement qui est en place et qui est favorisé, qui est encouragé par les gens qui sont au gouvernement. Il y a quelques personnes qui en parlent, notamment dans l'article.
Axel Le Maire, elle n'est plus au gouvernement.
Exactement. Elle l'était au gouvernement et c'est vrai qu'elle était, elle était assez importante dans ce mouvement d'open data.
Ouais.
Donc des choses assez positives et assez sympathiques parce que open data, c'est très proche du monde du logiciel.
C'est elle qui avait poussé la loi sur le numérique et donc c'est à ce titre-là qu'elle s'exprime, je pense.
Alors, technique de l'ingénieur, l'État explique comment se passer des GAFAM par Philippe Richard.
Donc les GAFAM, c'est...
Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft.
Et donc là, l'État se rend compte en quelque sorte qu'il y a un souci à juste discuter et à juste travailler avec ces grosses entreprises multinationales, qui sont parfois tellement grosses qu'elles dominent les institutions. Et donc là... Malgré tout ce qu'on voit qu'il se passe dans les ministères.
Les accords Open Bar,
exactement.
Microsoft Défense, les accords
donc des trucs
Microsoft,
l'éducation
nationale.
Et en fait, l'État est déjà bien trempé avec les GAFAM, bien mouillé dans les GAFAM, mais il discute du fait de s'en ressortir. Il voit bien qu'il y a un gros problème avec tout ça.
Et dans cet article, il nous donne même une liste de solutions alternatives, donc c'est pas mal. Article suivant, lemonde.fr, la Californie réinstaure la neutralité du net, l'État fédéral l'attaque en justice.
Alors la neutralité du net, c'est un sujet difficile.
Sémantiquement, c'est assez difficile de défendre la neutralité du net, parce que la neutralité, c'est quelque chose quand même d'assez mou. Alors que tu dis, ouais, je vais défendre, quelque chose de positif, je vais défendre les opprimés dans la rue, ça parle, mais dire je défends la neutralité, je défends un truc...
Oui, ça, doit...
ça parle très peu au grand public.
C'est hyper technique.
On est beaucoup parti là-dessus dès le début et maintenant c'est un peu dur de faire demi-tour. Mais c'est vrai que c'est peut-être pas le terme le plus adéquat. Beaucoup font la remarque, mais c'est pas facile non plus de changer de bord.
Alors, c'est un truc que certains défendent quand même parce que c'est attaqué aux États-Unis. Notamment, l'administration de Trump a annulé tous les décrets, les lois, les règlements qui permettaient d'avoir une neutralité du net. Donc, en gros, le facteur ne pouvait pas lire vos lettres. C'est ce qui se passait d'un point de vue technique. Eh bien, l'État de Californie, lui, veut réinstaurer ça. Il a mal parce que l'État fédéral n'est pas d'accord. Donc là, ils vont aller au tribunal.
Et le dernier article, les frontaliers, Fab Lab, qu'est-ce que c'est, par la rédaction?
Alors c'est un bon sujet et je propose que on parle de cela et de contribution d'une manière plus générale, parce que les Fab Labs, c'est pas la première fois qu'on a le sujet sous la dent. Donc, mais la contribution d'une manière générale, c'est quelque chose qu'on peut croquer parce que c'est quelque chose de bon.
Oui. Alors si on part des Fab Labs, c'est les Fabrication Laboratory.
T'es sûr que c'est pas Fabulous? C'était peut-être Fabulous à l'origine.
C'est fabuleux, mais c'est d'abord de la question de fabrication. Et donc l'idée, c'est un truc qui vient des États-Unis, du MIT. Et donc c'était de mettre en place des lieux dans lesquels les gens, grand public ou autre, puissent venir bricoler, et avec du matériel moderne, et notamment des imprimantes 3D, de la découpe numérique, de l'électronique avec des cartes programmables, des petits ordinateurs, pour faire tout ce qu'ils veulent. Donc ce sont des lieux d'auto-apprentissage, où on va débarquer, il y a des gens qui peuvent nous donner des billes, on peut partager, mais l'idée c'est de se faire les dents soi-même, et de se dépatouiller, de trouver des solutions, et d'apprendre.
Après les Fab Labs, ça a pas mal évolué, parce que moi j'en ai visité plusieurs, où on travaillait aussi avec du tissu, on apprenait les gens à coudre, à réparer des affaires.
On peut faire tout ce qu'on veut, enfin il y a des gens qui font de l'électronique, il y a des gens qui vont construire des objets, et la couture en fait partie. Et il peut y avoir également des machines à faire de la broderie par exemple, où on va rejoindre... le domaine du numérique, mais dans la couture.
Donc c'est pas forcément limité à un univers geek, à faire des impressions en 3D de matériel ou du hacking de microprocesseurs ou des trucs comme ça.
Non. Et de fait, on trouve des gens qui vont être dans la technique. On va trouver des gens qui sont dans le design ou dans les arts. On trouve des gens qui sont dans problématiques de réparation, par exemple, hein, qui est des gens qui ont un côté plutôt écolo. Il y a des notions de repair café, peut-être.
Oui, qui marchent assez bien. Voilà. Il y a des étudiants et des entrepreneurs.
Oui, il y a des gens qui sont là pour faire leur proto, y a des étudiants qui sont en projet d'études. Il y a un petit peu tout et c'est un monde assez riche. Avec chacun vient avec ses envies, ses projets et voilà.
Alors, il n'y avait pas une petite discussion entre Fab Lab et Hackerspace ? Parce que les Hackerspace, c'est aussi des endroits qui sont parfois un peu moins bien agencés, on va dire, qui ont un peu moins de matos, mais qui sont bourrés de créativité, parce qu'il y a des gens qui se réunissent et qui viennent hacker, donc travailler sur de l'existant ou construire des nouvelles choses, mais ils n'ont pas forcément tout ce matos.
Ouais, alors Fab Lab, ça répond à un cahier des charges précis. C'est-à-dire que si tu veux mettre l'étiquette Fab Lab, tu dois avoir certains matériels, notamment une découpeuse laser qui coûte très cher.
Et que t'adores.
Qui est un outil génial. Mais du fait, il y a une définition très claire de ce que c'est un Fab Lab. Il y a plein de gens qui se disent Fab Lab et qui n'en sont pas réellement.
Alors que Hackerspace, ça a l'air d'être plus un truc qu'on peut faire dans une cave, avec du matériel de récup. On en a rencontré, on en a fréquenté. C'était un peu plus mouvant comme désignation. Mais il y avait ce côté un peu créatif que j'aime, que j'apprécie.
Alors moi, je maîtrise pas vraiment les Hackerspace. J'en ai fréquenté quelques-uns, mais c'est un terme un peu liquide, un peu malléable que je maîtrise pas, mais pour avoir fait quelques CCC et tout ça.
Donc c'est le Chaos Computer Club
donc
en Allemagne.
Le plus grand rassemblement de hackers au sens premier du terme hacker d'Europe. C'est très concentré d'informaticiens et de gens plutôt techniques, mais l'accent était quand même mis sur une diversité de bidouilleurs, pas forcément dans l'informatique. Tu parlais de broderie, moi j'ai vu des gens qui hackaient des machines à faire du tricot. On pouvait leur filer une image PNG, la machine sortait une écharpe ou n'importe quoi avec ce logo.
Les machines à tricoter, c'était les premières machines programmées en Europe.
Ouais, mais voilà, c'était un peu rehacké par l'arrière et ça donne des trucs incroyables et c'est pas forcément de l'informatique premièrement, évidemment il y en a un petit peu, enfin, il y a toutes sortes de trucs, il y avait des mecs qui avaient des délire sur des répartitions de poids physiques et tout ça, enfin, c'est très très amusant. C'est beaucoup moins informatique que ce que je pensais avant d'y aller.
Dans tous les cas, tu me corrigeras par rapport au CCC peut-être, j'ai l'impression qu'il y a ce travail de réappropriation, on reprend des choses auxquelles on n'avait pas accès. On n'avait pas accès en tant que citoyen à des machines industrielles qui permettent de faire des découpes hyper pointues ou à des imprimantes 3D. On n'avait pas accès à de la programmation de couture, des outils qui sont d'habitude inaccessibles et cachés. Et aujourd'hui, ça s'ouvre et on encourage les gens à venir avec leurs matos à réparer, avec leurs idées à construire. Et si vous voulez faire des prototypages, on peut le faire en informatique, mais on peut aussi le faire dans le monde physique, dans le monde réel, avec tous ces nouveaux outils qui se mettent en place.
Dans le sens de la réappropriation, se réapproprier aussi les choses qui sont à nous. Il y a eu une grosse levée de bouclier quand il y a eu le premier iPhone. Et puis maintenant, c'est les autres qui s'y mettent aussi. C'était le slogan, je l'ai oublié. Si c'est des vis, c'est pas de la colle. Le téléphone ne doit pas être collé. Il doit être vissé. On doit pouvoir l'ouvrir. On doit pouvoir regarder ce qu'il y a dedans. Maintenant, tous les téléphones prennent la logique inverse. C'est que tu mets une SIM très difficilement avec une aiguille ou je sais pas quoi. Et la batterie, si elle est morte, tu changes de téléphone. Pareil, si l'appareil photo frontal est mort, ton téléphone, soit tu le changes, soit tu l'as à moitié de capacité. Il faut regarder aussi le nombre de gens qui ont un écran cassé et qui le changent pas parce que soit ils ont pas la connaissance, soit c'est trop compliqué, soit c'est trop cher, soit faut tout changer. Alors qu'en fait, il existe des produits sur le marché qui vendent des pièces détachées très faciles, qui sont modifiables facilement, soit soi-même, soit on peut trouver quelqu'un qui le fait pour pas cher, vu que c'est ouvert par design et les pièces sont facilement trouvables.
Alors, petite anecdote, moi j'ai cassé mon téléphone dernièrement, justement le fameux écran, et c'est vrai que la première réflexion que je me suis dit, c'est je vais m'en acheter un autre. Et puis là, je me dis non, soyons écolo, je vais aller le faire réparer. Et donc, je suis allée le faire réparer, et je suis allée dans plusieurs magasins parce que j'aime bien comparer, et je suis passée de la réparation à 150, 120, 170, finalement 50. Donc, j'étais toute contente, j'ai commandé mon nouvel à l'écran. Et puis quand le bon matériel est enfin arrivé, le gars, il a réparé ça. Il a fait ça en 25 minutes. Et donc, j'ai payé mes 50 euros. Mais c'est vrai que le premier prix qu'on m'avait donné, c'était 150 euros. Pour 150 euros, il y a plein d'autres téléphones tout neufs. Et des fois, on se dit, c'est peut-être moins cher d'en acheter un neuf que de faire réparer. Alors, je suis allée voir sur Internet les tutoriels. Je me suis rendu compte que, en fait, pour quelqu'un de compétent et de bricoleur,
c'est-à-dire
tout sauf moi, c'était facile à réparer. Et j'ai pris la décision d'aller faire réparer mon téléphone, qui est extraordinaire.
Vous savez que ce problème-là existe, mais de la même manière avec des tracteurs. Aux États-Unis, ça paraît un peu étrange. Aux États-Unis, les constructeurs, les fabricants, ils essayent d'empêcher aux gens d'ouvrir et de réparer eux-mêmes. C'est interdit et c'est dans les lois. Il y a des gens qui se battent pour avoir le droit de la réparation.
Il y a des contraintes de maintenance, il y a du matériel qui est justement fait pour ne pas être réparé ou alors pour être réparé. On a le même truc dans l'automobile, avec des clés spéciales, avec des mallettes. Voilà, et ça fait partie de ce business où on va enfermer les utilisateurs. C'est pas un truc qui est lié à l'informatique. Effectivement, avec toute cette logique qu'on a dans les Fab Labs, il y a cette idée de pouvoir être maître. Ces choses-là, ça donne aussi accès à des outils qui sont des outils modernes. Donc de la découpe numérique, l'impression 3D, c'est des outils qui n'existaient pas avant. Et on peut faire plein d'autres choses. Et du coup, on se retrouve à être dans des logiques très différentes de celles qu'on connaît habituellement, qui est de sortir du produit standardisé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on navigue dans un univers où tout est voilà, avec des formes standardisées où on achète le produit de base.
On peut le personnaliser un peu, mais il y a des limites.
Voilà. Apple, c'était Think Different, donc penser différemment, mais acheter tous le même produit. Et comme c'est cher, et ben on est dans l'élite qui a le meilleur téléphone. Tout ça reste quand même du système standardisé où tout le monde a le même produit et tout le monde est censé l'utiliser de la même façon. Et dans la façon dont ces vendeurs de matériel fonctionnent, c'est qu'ils veulent un usage unique. Ils vendent un logiciel, ils vendent un produit quelconque.
Et ils te limitent dans
son... c'est comme ça que les gens sont censés l'utiliser. Et dès que les gens veulent l'utiliser dans une autre façon, ils vont les bloquer, ils n'ont pas le droit de faire ceci, ils n'ont pas le droit de faire cela.
Ils transforment en briques, hein. Tu te rappelles ?
Voilà, tout ça, c'est la même chose. Quand on commence à bricoler pour soi-même avec ses outils, bah, du coup, on se met à faire des choses qui sont pile-poil par rapport à notre besoin. Et du coup, on commence à sortir de cette logique standardisée. Voilà, je fais un truc, j'ai mon espace, il est grand comme ça, j'ai 24 cm dans ma cuisine pour faire un truc dans lequel je voudrais mettre mes couverts. Bah, mon truc à couverts que je peux acheter dans mon magasin, il ne fait pas 24 cm. Soit il en fait 12 et c'est trop petit, soit il en fait 26 et c'est trop gros. Et ben, je peux remplir pile-poil mon petit espace dans ma cuisine, par exemple. Un exemple tout bête. Et ça, c'est un premier pas qui permet de vraiment changer sa vision des choses et que je trouve assez intéressant et qui peut être vraiment un changement de perspective intéressant pour l'avenir. Voilà. Alors, et ce que je trouve intéressant par rapport à ce truc-là, c'est quand on travaille sur son projet, qu'on a un truc personnalisé, ça prend du temps, éventuellement on partage avec des gens et c'est finalement une expérience très très riche et beaucoup plus enrichissante que s'acheter le dernier téléphone à la mode qui coûte une fortune. Et du coup, on consomme moins.
En fait, c'est une autre manière de consommer. On fait le choix de soit réparer, soit fabriquer soi-même. J'ai une autre alternative de consommer autrement qu'en achetant du neuf, d'aller chez Emmaüs. Alors, moi, j'ai une petite librairie. Je suis en association avec une entité qui s'appelle Amistock, qui fait de la réinsertion professionnelle. C'est-à-dire que les gens amènent des objets chez moi. Amistock fait travailler des gens à venir chercher ces objets-là, les ramène dans un local, les répare, les nettoie, et ensuite les donne à Emmaüs pour que Emmaüs les vende. Et nous, en tant qu'acheteurs, on peut aller chez Emmaüs pour récupérer ces objets-là et leur donner une deuxième, voire une troisième vie pour certains objets. Ce qui est amusant, c'est que les objets qu'on récupère, des fois, ils sont quasiment neufs, quasiment pas abîmés. Et donc, c'est dommage de s'en débarrasser, de les mettre à la poubelle. Cette alternative-là, de les donner pour être consommé par d'autres personnes, je trouve que c'est très écologique en fait.
Ouais, et puis c'est aussi une vision de la consommation différente. Il y a des gens qui continueront à consommer vite et à vouloir le dernier produit à la mode, mais
et
au final,
jeter, hein.
Et à jeter, mais on peut avoir une vie pour ces trucs-là derrière. Et effectivement, c'est pas parce que certaines personnes fonctionnent comme ça que derrière on peut pas.
Après, c'est pas forcément
exploiter ça, ouais.
Après, c'est pas forcément jeté, il y a le pendant compulsif du je consomme et après je stocke, j'en mets plein dans le grenier, plein dans la cave et tout ça.
Il y a un nom à ça, je crois,
oui.
Parce qu'on sait jamais, ça peut toujours servir et du voilà. Coup, au bout de 20 ans, ça m'a jamais servi, mais on sait jamais.
Ça, c'est la peur de manquer. C'est la rareté qui fait qu'on a peur de manquer, donc on stocke au cas où on en aurait besoin un jour.
Et puis on l'a acheté, donc on se dit, ah, c'est quand même bien.
Mais ça,
et c'est vrai que déstocker, c'est aussi un bon truc à faire. Ouais.
Exactement, retrouver de la place, jeter des choses dont on n'a pas besoin, mais non, les jeter. Les retransformer, les donner à d'autres, les réparer et faire en sorte que ça re-rentre dans le circuit. C'est super intéressant. Et soi-même, on se libère de cette possession et de la peur de la rareté. Quoi,
et il y a aussi un autre facteur qui rentre en jeu, c'est l'aversion aux pertes. Un truc très bien documenté dans les sciences sociales, enfin plutôt en psychologie. C'est que quelque chose que tu as acquis à un certain prix, tu te l'appropries et tu seras prêt à le vendre à un prix plus cher. À qualité égale, évidemment, si c'est pas dégradé entre temps. À partir du moment où tu te mets dans l'état d'esprit que c'est un truc à toi, tu veux plus t'en séparer parce que le cerveau ne se contredit pas. Et si tu l'as acheté à une certaine valeur, c'est que tu estimes qu'il te rapporte quelque chose et tu te dis pas j'étais bête de acheter ça. On peut le dire, mais c'est pas naturel.
Pas initialement, peut-être.
Pas initialement. On se dit pas j'étais bête, je vais le revendre moins cher. Bon, sauf si c'est une erreur, sauf si tu peux pas le reprendre, si ça correspond pas du tout à ton besoin. Mais de manière générale, il y a une aversion aux pertes, c'est qu'on valorise plus un truc qui est en notre possession que quelque chose qui n'est pas en notre possession. Ça, il y a plein d'études en double aveugle. Combien vaut cette tasse qui t'appartient et combien vaut cette tasse que tu vois sur le sol? La même tasse, deux groupes complètement distincts vont pas donner le même prix. À combien tu le vends ou à combien tu l'achètes, c'est pas du tout le même prix. Enfin, pareil pour les maisons, évidemment, on achète moins cher qu'on veut le vendre,
surtout
etc.
Pour les maisons.
Pour tout, hein. C'est là que c'est le plus flagrant, mais pour tout.
Bon, c'est un grand sujet qui peut aller vraiment très loin. Je pense qu'on en reparlera, notamment d'écologie. Je pense qu'il y a plein de choses à dire. Et le logiciel libre, et la réutilisation, c'est vraiment pertinent. Ça correspond à des choses qui nous intéressent, n'est-ce pas? Mais faudra en parler une prochaine fois. Donc je vous dis à la semaine prochaine.
Salut tout le monde.
Salut.